Chères auditrices, chers auditeurs de cette émission mensuelle de La Libre Pensée, sur Radio Galère 88.4 MHz, bonjour. Sont au micro Claudette Coudeville, Michel Garin, Henri Huil, moi-même Michel Cadouche et notre invité Naïma, qui nous parlera de la flottille. À la technique, Michel Garin et notre ami Daniel Bureau. Tout d'abord, il faut indiquer que la libre pensée, qui est en toutes circonstances contre les guerres conduites contre les peuples, s'honore d'avoir participé aux manifestations des 14 et 28 mars. Dans ce contexte guerrier, où se déchaîne la barbarie, dont les populations sont les principales victimes, où l'État d'Israël agit dans le sud Liban comme il l'a fait à Gaza, avec 1 million de personnes chassées, leur maison détruite, le chemin du retour coupé. Il n'y a plus de pont pour franchir le Litani. Le 28 mars, nous étions aux côtés du peuple palestinien. Le 14 mars, avec beaucoup d'autres, c'était pour le rejet du fascisme, du racisme et de la violence d'État. La liberté de conscience n'est pas qu'un débat d'idées. Claudette va nous informer du contenu d'une tribune de Nicolas Cadenne parue dans le journal Le Monde. Comme chaque année, la Libre Pensée organise un banquet fraternel à l'occasion du vendredi dit Saint. Ce moment de rassemblement dans la bonne humeur sera précédé d'un débat dont Henri nous parlera. Pour Gaza, une nouvelle flottille s'apprête à prendre le départ, dont 2 bateaux depuis Marseille. Nous recevons leur représentante qui a accepté de nous en parler. La liberté de conscience s'incarne de manière institutionnelle par la laïcité et au lendemain des élections municipales, la lecture d'une tribune de Nicolas Cadenne nous a paru pertinente. Et parce que la laïcité, plus que jamais, a besoin d'être défendue, le banquet du vendredi 10 Saint sera un moment de rassemblement, certes, dans la bonne humeur. Michel, je te cède la parole pour l'entretien avec nos amis de la flottille.
Or, bien entendu, je souhaite le bonjour à nos auditeurs. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir une représentante de la flottille pour Gaza qui va partir de l'Estac. Alors, c'est Nima, plus exactement, excusez-moi, j'escorte ton nom, Nima. Alors, d'abord, Nima, ce que l'on voudrait, c'est que tu te présentes.
Bonjour, merci de me recevoir. Je m'appelle Nima, je suis une comédienne lyonnaise et je suis bénévole pour l'association Thousand Madeleines to Gaza, qu'on appelle aussi ici la flottille pour Gaza.
Oui. Alors, quel est le dans cette association, comme dans cette flottille, et il faudrait peut-être la présenter.
Oui. Alors, nous sommes une association, on s'appelle Thousand Madeleines to Gaza. Ça fait suite au bateau, le Madeleine, qui a été intercepté en mer, dont l'équipage a été kidnappé par Israël l'année dernière. C'est comme ça qu'est né notre mouvement, en fait. Quand il y a eu cette interception-là, il y a eu un post sur Internet d'une personne qui disait « Mais ils arrivent à stopper une Madeleine, mais est-ce qu'ils arriveraient à en stopper 1000 ?» D'où le nom « Thousand Madeleines to Gaza »,« 1000 Madeleines vers Gaza », pour ceux qui ne parleraient pas anglais. Et du coup, ça a commencé l'année dernière. Il y a une flottille qui a été envoyée déjà l'année dernière, qui s'est fait intercepter et kidnapper de la même manière que les autres flottilles. Et celle-ci va partir le 4 avec plus de bateaux. On a appris de la flottille de l'année dernière et ce qu'on a compris, c'est qu'il ne fallait surtout pas qu'on s'arrête, mais qu'au contraire, il fallait qu'on envoie plus de bateaux pour essayer de submerger la marine d'en face.
Oui, alors dans ce que j'ai cru comprendre, pour les flottilles, il y a aujourd'hui une flottille qui se compose de plusieurs flottilles, je dirais.
Voilà, c'est ça. Il y a la Freedom Flotilla Coalition, la Global Sumud Flotilla et la nôtre, Thousand Madeleines to Gaza. Les 3 flottilles se rassemblent cette année pour avoir la même mission et pour naviguer ensemble vers Gaza.
Alors, d'après ce que j'ai compris quand on a discuté, parce qu'il s'est créé une association justement à l'Estac, hein, puisque je le rappelle, cette flottille va partir de l'Estac. Et cette association pour donner un coup de main à tous ces jeunes qui sont dans cet entrepôt, dans ces quais. Et d'après ce que j'ai compris, d'après ce que disait Esther, c'est que cette flottille, celle-ci, hein, excusez-moi le nom, ça m'écorche, Madeline of Gaza, elle a une particularité par rapport à une particularité, je ne sais pas si c'est vraiment une particularité, mais par rapport à d'autres flottilles, parce qu'il y a des flottilles qui vont partir également de Tunis. Et d'ailleurs, alors que ces flottilles ont plutôt un but humanitaire, celle que vous composez est plutôt en grande partie un but politique.
Oui, c'est pas une flottille humanitaire. Nous, on sait que nos bateaux, ils vont transporter des choses, mais qu'on n'aura pas du tout de quoi subvenir aux besoins de là-bas. Nous, notre flottille, elle est politique. Elle veut amener un mouvement qui est plus global. Quand on est parti l'année dernière, il y avait dans les médias, tout le monde parlait de la Palestine, il y avait un mouvement global, il y avait des manifestations, il y avait des blocus qui se faisaient. Malheureusement, depuis le prétendu cessez-le-feu qui a été annoncé par Trump, il y a encore beaucoup de personnes qui pensent qu'il n'y a plus de génocide à Gaza, qui pensent que tout va bien là-bas, qui pensent que Trump a amené la paix. C'est totalement faux. Donc la particularité de la flottille cette année, c'est qu'il faut qu'elle crée un élan. L'année dernière, on s'inscrivait dans un élan qui était déjà présent. Et cette année, l'élan, il faut que ce soit nous qui l'amenions. Il faut que cette flottille, elle soit accompagnée de blocus, de manifestations, de plein de choses, de tout ce qu'on peut faire sur Terre pour briser le blocus. Il faut qu'il y ait une pression diplomatique qui soit forte. Et ça, la flottille seule ne peut pas le faire. Donc on compte aussi sur toutes nos interventions. On compte aussi sur tous les autres militants, tous les autres collectifs pour nous rejoindre avec différents mouvements.
Alors, pardon, aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris, et vous êtes quand même à la recherche de personnalités. Parce que dans la première partie, quand il y a eu le Madeleine, je rappelle que Madeleine, d'ailleurs, c'est le nom d'une pêcheuse qui avait été tuée justement au large de Gaza. Il y avait Rima Hassan
Greta Thunberg.
Greta Thunberg. Donc, et d'après ce que j'ai compris, vous manquez de personnalité aujourd'hui pour, je dirais, assurer un peu la sécurité de cette flottille.
Alors oui, pour nos bateaux, il y a une composition qui se fait en général. D'abord, on prend des marins, ensuite des médics, ensuite des personnalités politiques et publiques, et ensuite des citoyens et citoyennes. Cette manière de composer l'équipage, ça nous permet d'avoir une sorte de bouclier diplomatique, on va dire. Chaque personne a un passeport et est reliée à un pays, et les personnalités publiques et les personnalités politiques, bien évidemment, ce sont des personnes qui peuvent apporter de la lumière sur la flottille, et donc on en a besoin. Donc on contacte toutes les personnes qu'on peut, et je lance l'appel aujourd'hui à toute personnalité publique ou politique qui souhaiterait nous rejoindre et monter sur les bateaux. Ceci est tout à fait possible, on vous attend.
Alors d'après ce que j'ai compris, vous attendez plusieurs possibilités, hein, pour ces politiques. D'abord, je dirais, puisque c'est le flottille va partir de l'Estac pour aller à Marseille et partir de Marseille.
Voilà, alors pour préciser, on a deux départs. Pour nous, c'était important de faire un départ de l'Estac parce qu'on a tellement été soutenus par les habitants et les habitantes de l'Estac qu'on était obligé de faire un départ d'ici. Donc le 4 à 10 heures, il va y avoir une cérémonie, un baptême. Le quai va être renommé par les habitants et les habitantes de l'Estac. Ensuite, il va y avoir une conférence de presse et ensuite, on fera un premier départ de l'Estac pour aller à Marseille. Et le deuxième départ se fera vers 14h du J4 près du Mucem.
Oui. Alors, ce qui m'a surpris lorsqu'on a eu ces discussions dans cette assemblée, je dirais, c'est que vous comptiez sur des personnalités qui pouvaient faire plusieurs trajets. C'est-à-dire une personnalité qui pouvait faire un minimum, c'est déjà signer le communiqué. Une deuxième qui pourrait éventuellement aller plus loin de l'Estac à Marseille ou plus loin de Marseille à l'Italie, puisque je crois que le regroupement est en Italie.
Oui.
Et après, tout compte fait d'essayer d'aller jusqu'au bout. Ce qui est l'intérêt justement pour vous quand même, c'est d'avoir ces personnalités qui vous accompagnent jusqu'au bout.
Voilà, nous on donne toujours plusieurs possibilités pour nous soutenir. Il y a la possibilité, il y a différentes possibilités comme vous les aviez données juste là. Il y a celle de nous soutenir en faisant des communiqués, en faisant des vidéos. Il y a monter sur les bateaux pour aller jusqu'en Italie pour déjà nous donner de la visibilité. Et il y a bien évidemment monter sur les bateaux pour aller jusqu'à Gaza.
Alors, je pense qu'on va peut-être te laisser une petite... on va peut-être te faire en profiter pour faire une petite pause. Parce que je crois que tu as demandé justement que l'on puisse passer une chanson. Alors, je ne sais pas, je t'ai peut-être piégé, parce que normalement, il est d'usage que ce soit ceux qui demandent la chanson qui la présentent. Je ne sais pas si... Je pense que tu...
C'est une très belle chanson qui parle de la Palestine. Je ne savais pas trop laquelle choisir et j'ai juste choisi avec le cœur celle qui a tendance à me remuer le plus à l'intérieur, tout simplement.
Oui. Alors, moi, je vais dire juste deux mots sur ce chanteur, hein, sur cette chanson, plus ou moins. Plutôt excusez-moi, en même temps, je m'en mêle dans mes souris, sur le tableau. Sur le chanteur et un peu l'origine de la chanson. C'est que ce chanteur, en définitive, la chanson s'appelle « Libre Palestina » par Zahid Hilal. Alors, il faut dire qui est Zahid Hilal. Zahid Hilal est un chanteur, compositeur et producteur de musique palestinien de Bethléem. Sa musique mêle les sons traditionnels palestiniens aux influences contemporaines, créant ainsi une expérience musicale unique et émotionnelle puissante. En tant qu'artiste folklorique, Zahid réinvente les chansons patrimoniales et les compositions originales d'une manière fraîche et engageante, fusionnant des mélodies culturelles profondément enracinées avec des rythmes, des textures et des contes modernes. Alors, je suis en train de vous rechercher la Libre Palestina, que l'on va vous passer maintenant, tout simplement. Un petit moment de silence, c'est pas... Voilà, le temps de retrouver... Excusez-moi, il y a un petit trou. Voilà, ça vient.
ملاك ليش بالسما مقهور والبشر ليش عالظلم ما بيثور ملاك ليش بالسما مقهور والبشر ليش عالظلم ما بيثور والطفل مش مسموح والكاس كله دموع علي الراية فوق فلسطينة علي الراية فوق فلسطينة ليبري فلسطينة يا لا 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 ليبري فلسطينة
الشهيد معبر بالهيل ليل يا ليلو ويل ويل عالظالمي ليلو ويلو من الله لاصر على نجوم الليل أنا داويلو شيل شيل عالجمالي شيل يا حوا قطب الله دم الشهيد معبر بالهيل ليل يا ليلو ويل ويل عالظالمي ليلو ويلو من الله لاصر على نجوم الليل أنا
يا اللي
من تحت الركام في عين الجاني، والطفل مش مسموح والكاس كل دموع على الراعي فوق فلسطين،
voilà cette belle chanson qui était donc demandée par Nima. Nima, je voudrais encore te poser quelques questions. Juste sur, je sais que c'est toi qui t'occupes en définitive du nerf de la guerre, c'est-à-dire l'approvisionnement, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc aujourd'hui, est-ce que vous avez, je dirais, ce que vous comptez, ce sur quoi vous comptez, ou encore vous manque-t-il de quelques éléments ou quelque chose qui serait encore importante?
Alors, la fin des dons se fait aujourd'hui, parce qu'ensuite, il faut qu'on charge tout sur les bateaux. Et ça va nous prendre un petit peu de temps. Les gens peuvent encore nous déposer aujourd'hui du matériel médical, de la nourriture, tout ce qui est nourriture sèche, des fournitures scolaires pour les enfants. Sinon, on a eu énormément d'aide. On a eu des dons de pas mal de choses différentes, des vêtements pour habiller nos marins, des gilets de sauvetage, plein de choses différentes, et on a eu énormément d'aide là-dessus sur les dons. On a eu aussi des dons de graines, de matériel. Donc on remercie toutes les personnes qui nous ont aidés pour tout ça, et fin des dons aujourd'hui.
Alors, tu as parlé de graines.
Oui. Alors l'idée, c'est que nous, on s'est dit, on ne va pas avoir assez pour amener à manger. Donc il est mieux d'apporter des choses qui permettent l'autosuffisance. Et du coup, les graines, c'était important. On a des bateaux avec différentes thématiques. Et sur le bateau écologie, il y aura effectivement des semences pour pouvoir replanter.
Oui, parce qu'il faut quand même rappeler qu'une flottille, ça ne s'organise pas comme ça. Il faut rappeler qu'il y a combien de bateaux aujourd'hui qui sont sur ce quai?
Il y en a là 17, il y en a une vingtaine qui partiront de Marseille.
Voilà. Alors, il faut savoir que ces bateaux, ce sont des bateaux qui, pour certains, je ne dirais pas tous, parce que certains vont peut-être faire demi-tour avant d'arriver. Mais pour les autres, ce sont des bateaux qui ont été achetés, hein, d'après ce que j'ai compris. Il y a eu un énorme budget pour cela.
Alors, il y en a qui ont été achetés, il y en a qui ont été donnés aussi.
Voilà. Parce que ces bateaux, il faut savoir qu'une fois arrivés, ils ne reviendront pas, quoi. Donc, ce sera aux pertes de profit, quoi, je dirais. Et il en va de même, d'après ce que j'ai compris, pour la plupart du matériel, d'ailleurs, qui va être donné.
Dans le cas où tous les bateaux sont interceptés, effectivement, on perd les bateaux et on perd ce qu'il y a dedans. Après, nous, on a espoir que nos bateaux puissent passer. Alors, on n'est pas complètement fous. On s'imagine bien qu'on ne va pas nous laisser passer et qu'ils vont essayer d'intercepter le plus de bateaux possible. Nous, l'idée, c'est quand même d'essayer d'en faire passer le plus possible. Mais effectivement, ce qui s'est passé sur la vague la dernière fois et qui s'est passé sur les vagues d'avant, quand les bateaux se font intercepter et que les équipages se font kidnapper, l'État d'Israël garde tout, autant le bateau que l'aide humanitaire qui a été apportée dessus.
Et comme tu dis, vous allez être kidnappé, parce que c'est vrai qu'il faut rappeler que en termes maritimes, normalement, ce qui se produit sur une flottille, c'est du piratage.
Il y a exactement. Pas d'autre nom. Et nous, on respecte le droit international. Tout ce qu'on fait est absolument légal. Ça, on le répète et on le martèle. Nous, tout ce qu'on fait, c'est légal et on respecte le droit international. Et effectivement, la dernière fois, alors dans les médias, on a beaucoup de mots qui sont utilisés qui ne sont pas les mots de kidnapping. Et moi, ça me dérange beaucoup parce qu'effectivement, comme tu le disais, il s'agit de piratage. Dans ce cas-là, il s'agit de kidnapping. Et quand il s'agissait de Greta Thunberg et de Rima Hassan, c'était du kidnapping. Et on était bien sur le kidnapping d'une eurodéputée quand même.
Voilà, je pense que c'est important de le dire, parce que vous avez aussi, pour une dernière question, c'est que, bien sûr, tous ces gens qui vont être kidnappés, puisque c'est le terme réel, il va falloir quand même assurer leur défense et le rapatriement de ces personnes.
Exactement.
Et ça, c'est également prévu.
Et ça, c'est également prévu. Alors, il y a un groupement d'avocats qui s'appelle Adala qui s'occupe de ça, d'aller voir les personnes en prison, de faire tous les entretiens et d'essayer de les défendre. Alors, on a déjà eu ça la dernière fois, donc on sait un petit peu comment est-ce que ça se passe en général. Après, on n'est pas du tout sûr que là, ça va se passer de la même manière. Le contexte géopolitique n'est pas le même. Donc, on part du principe qu'on sait comment ça s'est passé l'année dernière avec des interceptions, des kidnappings, quelques jours en prison. En prison, en général, ils demandent de signer plusieurs papiers, dont un papier, par exemple, qui dit que la personne est rentrée illégalement sur le territoire d'Israël. Dans ces cas-là, le papier n'est pas signé par nos équipages. Et ensuite, pour le rapatriement, nous, l'année dernière, il y a eu un problème là-dessus parce qu'aucun État ne voulait payer les billets d'avion. Et nous, on estime que ce n'est pas à nous de les payer, ces billets d'avion. Donc, ça va être une des choses sur lesquelles on va essayer de travailler. C'est que si rapatriement il y a, et ben c'est au pays de rapatrier leurs citoyens et leurs citoyennes, et c'est pas à nous, déjà qu'à la base c'est pas à nous de faire ce qu'on est en train de faire, déjà qu'on est en train de faire tout ça parce que nos gouvernements ne font rien. Alors s'il y a kidnapping, ce sera à nos gouvernements de rapatrier nos citoyens et nos citoyennes, c'est bien la moindre des choses.
Voilà, ben je pense que Nima, tu nous as dit, là, je dirais, l'essentiel. Maintenant, ce que je vous invite, bien entendu, c'est de participer à ces actions. Hein. C'est
oui.
Une partie de ces actions seront à l'Estac.
Oui, une partie de ces actions seront à l'Estac. Nous, venez au départ, venez prendre des vidéos, venez prendre des photos, venez tout simplement soutenir les flottilles. Et le départ du 4, ce ne sera que le début. On va avoir besoin de la mobilisation à terre. On va avoir des caméras sur les bateaux qui transmettront en live ce qui se passe sur les bateaux. C'est très important de suivre ce qui se passe sur les bateaux. Ça permet de sécuriser nos équipages. Et surtout, il s'agit de continuer la mobilisation à terre, de faire des blocus. Ça peut être des blocus de Eurolinks ici, par exemple, qui produit des armes qui servent directement là-bas. Ça peut aussi être bloquer des entreprises qui financent l'État d'Israël. Ça peut être Carrefour, la BNP, Nestlé. Il y en a plein tout autour de nous qui financent ce génocide qu'on voit en direct. Donc le début de la mobilisation, enfin le 4, ce n'est que le début de la mobilisation. Et bien évidemment, on a toujours besoin d'argent. On parlait des rapatriements, on parlait des avocats, etc. Ça va coûter des frais. Donc, on a toujours une cagnotte. Il y a notre site Thousand Madeleines France. Et là-dessus, vous pouvez faire un don. Vous pouvez aussi imprimer des affiches. Vous pouvez aussi consulter les kits de mobilisation pour savoir comment vous mobiliser. Vous pouvez rejoindre vos groupes locaux, ce qu'on appelle les groupes locaux, c'est des groupes qui sont créés dans différentes villes et qui font des événements levées de fonds, des tables rondes, voilà, tout plein de choses différentes que vous pouvez rejoindre, auxquelles vous pouvez participer.
Ben voilà, je crois que tu as dit l'essentiel. On donne rendez-vous à tous ceux qui nous écoutent donc samedi hein, pour participer à ce départ. Et je vais mettre une autre chanson qui avait été choisie, hein, Le Migrant. Donc ça fait un peu référence à ce qui se passe dans la Méditerranée. On sait que dans la Méditerranée, il y en a beaucoup qui ont péri en Méditerranée. Et je rappelle juste que cette chanson, Le Migrant, c'est une chanson de Salvador Adamo, hein, qui est pour certains qui ont chanté des chansons comme Vous permettez, monsieur, Mes mains sur tes hanches ou Petit bonheur. Et cette chanson, c'est l'une des dernières chansons de Adamo qui est parue en 2025 dans son dernier album. Voilà maintenant pour la chanson.
Migrant, je veux jouer ma vie pour une autre meilleure, où fleurissent des sourires aux visages qui pleurent. Repoussé par les uns, ignoré par les autres, j'espérais que mon sort devienne un peu le vôtre. Mais que vous importe au fond, notre coquille de noix. Migrant, j'ai traversé la mer jusqu'à la première île. Le vent nous a posés sur des rives hostiles. L'enfer de mon pays ne me laisse que le choix de ce raffio bondé, d'autres ombres sans voix, pour aller voir ailleurs, si la vie n'y est pas. Avec femmes et enfants, entre crise et prière, nous nous sommes traînés jusqu'au bout des frontières. Certains ferment les yeux et nous disent bonne chance. D'autres sont-ils sérieux, nous renvoient en errance. Je voyais la lumière. On m'a coupé les ailes, on m'a jeté par terre. Je me suis retrouvé comme un délinquant, derrière des barbelés, parqué avec mes frères, à me sentir coupable d'être encore vivant, à me sentir coupable d'être encore vivant.
Voilà, donc après ces moments intenses, je dirais, je voudrais de Nima te demander à quelle heure est le rendez-vous à l'Estac ?
À 10h.
10h. Et au J4 ?
Et au J4, 14.
Et J4, 14h. Voilà, donc je vais passer au sujet de notre banquet traditionnel de la libre-pensée contre les interdits religieux à l'occasion du vendredi dit saint. Pour des raisons de disponibilité de salle, ceci aura lieu donc le samedi 4 avril. Le rendez-vous est à 10h30. Au centre d'action locale des Carmes. Bon, Henri, s'il te plaît, sur quoi portera le débat que nous avons prévu ?
Oui, alors comme évidemment la Libre Pensée est une organisation téméraire et qui ne recule devant aucune difficulté, on a prévu de faire un débat en deux parties sur deux thèmes assez différents. Le premier thème, c'est à partir du rassemblement que nous avons organisé, du meeting que nous avons organisé avec de très nombreuses autres organisations, le 6 décembre à Paris, pour le 120e anniversaire de la loi de 1905 de séparation des cultes et de l'État. Cette journée qui a regroupé alors un certain nombre d'organisations, pour citer que les organisations laïques traditionnelles, je dirais, la Libre Pensée, la Vigie de la laïcité nationale, la Ligue des droits de l'homme, et puis de nombreuses organisations syndicales, presque toutes en fait, puisqu'il y avait la CGT, Confédération et Fédération de l'enseignement, Force ouvrière, Confédération et Fédération de l'enseignement, la FSU, le Sud Éducation, et l'UNSA Éducation. On voit qu'il y a pratiquement la totalité des organisations syndicales. Et bien sûr, toute une liste d'organisations et de comités que je n'ai pas le temps de citer aujourd'hui. En conclusion, je donnerai le rappel du site de l'ALP où l'ensemble des interventions et la déclaration finale qui a été adoptée sera disponible à la lecture et au téléchargement pour tout le monde. Le point d'accord de tout le monde a été sur le fait que, en fait, la laïcité, ce n'est pas une prise de position anti-religieuse. Il s'agit de la séparation des cultes et de l'État. C'est-à-dire que l'État n'a pas à être le gendarme des consciences de nos citoyens et des autres. À savoir qu'il s'agit au contraire d'une limitation des pouvoirs de l'État. L'État n'est pas le gendarme des consciences et pas davantage le gendarme des convictions religieuses qui seraient convenables ou pas convenables, admissibles ou pas admissibles. C'est du ressort de la liberté du citoyen. En ce sens, depuis toujours, pour les militants laïcs, pour les organisations du mouvement laïque, la laïcité, c'est la transcription dans les textes de loi dans même la Constitution, dans le préambule de la Constitution, c'est la transcription d'un principe fondamental qui est celui de la liberté de conscience des citoyens. Comme je l'ai dit, ce rassemblement, ce meeting du 6 décembre à la Bourse du Travail à Paris a été un événement considérable. Et à la Libre Pensée, nous pensons qu'il convient de lui donner une suite, qu'il s'agit de le prolonger pour que le couteau, non seulement ait un manche solide, mais en plus qu'il ait une lame tranchante. Et ce que nous allons proposer à l'ensemble des organisations participantes, associations, mouvements, organisations syndicales, personnalités, c'est la constitution de... Alors nous, on appelle ça dans notre jargon une confédération laïque. Entendez, hein, au sens, une confédération pour la liberté de conscience, qui se fixerait deux objectifs principaux. L'abrogation de la loi Debré, c'est celle qui fait obligation à l'État et aux communes en particulier, de financer l'enseignement privé, dont on sait qu'en France, il est allé à 95-98% catholique. Et il convient de mettre un terme à cela et de faire en sorte que l'école de la République, c'est l'école laïque, c'est l'école de tous, ce que dans le temps, quand j'étais jeune, on appelait la communale, et qu'après, la liberté des familles qui souhaitent que leurs enfants aient une éducation religieuse particulière dans le cadre de l'enseignement, cela se fasse au choix des parents, des familles, mais à leurs frais. Le deuxième aspect, c'est le combat. Donc j'ai dit le premier, l'abrogation de la loi Debré. Le deuxième, c'est l'abrogation d'une loi Darmanin qui s'appelle la loi séparatisme. Alors, on n'a malheureusement pas le temps de rentrer dans le détail, mais c'est un sujet qu'on traite presque pratiquement tous les mois de manière régulière dans nos émissions de la Libre Pensée sur l'antenne de Radio Galère, 88.4. Cette loi, notamment avec le contrat d'engagement républicain, est un véritable garrot qui est passé autour du cou des associations et qui, en fait, remet en cause la loi de 1901 parce qu'elle permet aux préfets... en définitive, d'interdire toute subvention de fonds publics aux associations, quel que soit par ailleurs leur but. Mais la loi de 1901 garantit la liberté d'association en France en principe. Et le garrot financier, ça aboutit à une interdiction de fait. D'ailleurs, la loi permet aux préfets de décider quelles sont les associations qui sont conformes ou pas aux principes républicains d'égalité, de liberté, de fraternité. Quand la police décide, le préfet c'est quand même le chef de la police, c'est le représentant de l'État, quand c'est l'État qui décide de qu'est-ce que c'est exactement la liberté, où est-ce qu'elle s'arrête, qu'est-ce que c'est que l'égalité, où est-ce qu'elle s'arrête, et qu'est-ce que c'est que la fraternité, où est-ce qu'elle s'arrête, on commence à être pas bien. Et c'est la situation dans laquelle ce pays est plongé actuellement depuis la série de lois qu'on peut appeler les lois Darmanin, Retailleau, lois, décrets, circulaires, etc. Voilà. Donc ça va être la première partie du débat que nous proposons.
Donc justement, tu dois aborder un autre, d'autres sujets.
Voilà. Comme j'ai dit, on est des téméraires, on craint rien. On va faire deux débats dans le temps d'un seul. Mais bon, en général, les débats dans l'occasion des banquets de la Fédération de la Libre-Pensée se passent toujours très fraternellement. Et on peut prendre le risque, comme on dit, de discuter de sujets brûlants. Et donc le deuxième sujet que nous avons à discuter, c'est le problème de ce que révèle actuellement la guerre conduite par Trump et Netanyahou contre les peuples iraniens et libanais. Parce que c'est pas un mince événement, ça prend un peu la tournure, on en parlera samedi à notre banquet, on transite vers la guerre mondiale. Il faut avoir une claire conscience de cette chose-là. Et donc de la même façon que la libre-pensée a pris position bien avant 2003 et bien avant encore, depuis 1948, en fait, sur la question du combat contre le génocide du peuple palestinien. Et pour être précis et gagner du temps, je vais employer une formule. Ça, c'est un génocide colonial du peuple palestinien organisé par l'État, l'armée, la police et les différentes milices, d'ailleurs, de l'État d'Israël contre la totalité du peuple palestinien. Donc de la même façon que nous condamnons ce génocide, et c'est une série de droits, de crimes de droit commun qui, de toute façon, se produisent toujours à l'occasion de toutes les guerres. Nous condamnons très fermement l'agression de Trump et Netanyahou contre, je l'ai dit, le peuple iranien et le peuple libanais. Ça amène à une question parce qu'à cette occasion, on parle beaucoup de la question du droit international. Alors, il faut savoir de quoi parle-t-on exactement. Et ce sera l'objet du débat. C'est que faut-il entendre par là? Et il est très important, effectivement, Nima le rappelait tout à l'heure, que les initiateurs de la flottille, des flottilles, prennent grand soin de ne rien commettre qui soit dans l'illégalité. Parce que, effectivement, aux yeux de l'opinion publique, aux yeux de tout un tas de gens, cette question du respect de la loi, le respect de la légalité, encore faut-il que les lois soient un peu démocratiques, c'est un élément important de légitimité de l'action. Mais en même temps, moi, j'ai, bon, pour gagner un peu du temps, c'est une émission de radio, je pense qu'il n'est pas inutile de faire une petite comparaison, parce que je pense que Trump, Netanyahou, Macron, Poutine, et d'autres, je pourrais citer juste pendant des jours, des semaines, tous les jours, qui dirigent les États, les armées, les polices. Les droits de l'homme, c'est un truc qui s'assoit dessus. Hein. Et donc, par voie de conséquence, le droit international, Et moi, j'ai pris une comparaison. Bon, c'est une émission de radio, on prend une petite liberté. Nous qui parlons et ceux qui nous écoutent, on est un peu en bonne entente, en symbiose, en quelque sorte, sur ces questions. Vous connaissez, vous savez, les pêcheurs à la ligne, les gens qui vont pêcher au bord des rivières et tout. Ils ont des petits fauteuils, vous savez, pliants. En général, il n'y a même qu'un pied ou deux pieds. Alors, ils arrivent, ils le déplient, ils s'assoient dessus, ils pêchent toute la journée, ils attrapent du poisson, vous voyez. Et le soir, ils le ramènent chez eux, évidemment, parce que ça peut resservir, ces sièges-là. Eh bien, pour Trump, Netanyahou, ici, en la circonstance, et quelques autres, quand ils parlent des droits de l'homme, ils parlent du droit international, et ils en font le même usage que le fauteuil du pêcheur. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils montrent bien qu'ils en ont un, qu'il est tout beau, qu'il est tout neuf, qu'il est formidable, et après, il s'assoit dessus. Et évidemment, pendant la journée, il pêche non pas du poisson, il pêche les milliards. Là, récemment, le gouvernement français a décidé de donner 8,5 milliards de plus aux dépenses militaires. Tout récemment, là, il y a quelques jours. Des 8,5 milliards, ça représente... Combien ça représente en fermeture de classe, en salaire bloqué, en expulsion de locataires qui ne peuvent pas payer leur loyer, en augmentation du prix de l'essence, du gasoil et tout ça, c'est 8,5 milliards. Et c'est dans un pays où on nous dit on ne peut plus rien dépenser parce qu'on n'a pas de sous, et où, puisqu'on a la dette et tout. Donc si on ne prend pas sur la dette et qu'on ne peut plus rien dépenser, les 8,5 milliards, ils sont pris sur autre chose. Et donc voilà, pendant la journée, assis sur leurs principes, et les principes officiels, ils pêchent les milliards. Et le soir... Eh bien, ils le replient et puis ils le ramènent chez eux parce que ça pourra resservir demain. Les déclarations que ces gens-là font sur le droit international. Je prends juste un exemple un peu plus sérieux, mais je crois que la comparaison n'est pas mauvaise, en fait. Un exemple un peu plus sérieux, c'est il n'y a pas très longtemps, Macron a fait un grand show de communication dont il a le secret, qui repose sur du vent et qui n'aboutit à rien, c'est toute l'opération sur la reconnaissance de l'État palestinien, l'État de Palestine, disait-il. On a vu que ça n'a pas modifié, mais d'un iota, la situation du peuple palestinien. Ça a juste servi d'une opération de diversion pendant laquelle, pendant le spectacle, le massacre continue. Voilà. Et donc, je ne vais pas développer plus parce que je crois que c'est un sujet intéressant, que ce n'est pas la peine de s'y étendre trop. Et juste dire que je propose qu'on écoute la chanson de Bruce Springsteen qui s'appelle « Street of Minneapolis » parce qu'il y a eu la semaine dernière aux États-Unis, les médias américains nous disent 3600 manifestations dans tout le pays qui auraient regroupé entre presque 7 millions, voire jusqu'à 8 millions de manifestants contre la politique de Trump à propos de l'Iran et du Liban. Ce sont des chiffres considérables. La parole est à notre camarade Springsteen, qui a participé aux manifestations.
Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice 'neath an occupier's boots.
King Trump's private army from the DHS. Guns belted to their coats. Came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Or Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Streets of Minneapolis. Trump's federal thugs beat up on his face and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. They trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chance of ice out now, our city's heart and soul persists. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis.
Effectivement, vu ce qui se passe aux États-Unis. Pour revenir en France, les lecteurs du journal Le Monde ont pu y lire une tribune de Nicolas Cadenne qui concerne les tenues vestimentaires au sein d'un conseil municipal. Claudette, nos auditeurs seront, j'en suis sûr, intéressés par la lecture que tu vas nous en faire.
Oui, bonjour. Alors effectivement, une tribune signée par Nicolas Cadenne est parue récemment dans le journal Le Monde en critique à une décision de justice interdisant aux élus de Chalon-sur-Saône de porter le voile pendant les séances du conseil municipal. Cette tribune avait pour titre « Jamais la laïcité n'a supposé la neutralité des élus ». Dans cette tribune, il rappelle que les élus sont les représentants du peuple et pas des agents de l'administration. Alors, pour vous donner quand même, vous faire un petit rappel encore, Nicolas Cadenne est consultant et formateur sur la laïcité et la gestion des faits religieux. Il est ancien rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité. Vous savez, cet observatoire qui a été supprimé par Macron. Et il est cofondateur de la Vigie de la laïcité et membre de l'Académie de Dîmes. Alors, l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon du 18 mars témoigne, écrit-il, de la force acquise dans le débat public par les conceptions les plus restrictives de la laïcité. Si cette décision n'était pas contestée, il serait dorénavant interdit aux élus de Chalon-sur-Saône de porter le voile lors des séances du conseil municipal. Ce juge a en effet rejeté la demande qui lui avait été faite de suspendre un article du règlement intérieur interdisant, lors des séances du conseil municipal, le port de tout signe religieux ostensible. Pour justifier ce rejet d'un texte qui se dit inspiré d'une instruction du bureau de l'Assemblée nationale de 2018, le juge des référés estime qu'une séance du conseil municipal constitue une autorité administrative de la République française à laquelle s'applique le principe de neutralité. Selon ce magistrat, les élus devraient donc, en vertu du principe de laïcité énoncé par l'article L111-13 du Code général des collectivités territoriales, s'interdire de porter des signes religieux lors des réunions du conseil municipal. Mais alors, on peut se poser la question, quid de la liberté de conscience et de son expression ? Cette décision, qui étend l'exigence de neutralité de l'institution publique à l'ensemble des élus pendant les séances du conseil municipal, soulève une difficulté majeure. En effet, l'article 1111-13 n'impose pas une obligation générale de neutralité religieuse à tous les élus locaux dans l'exercice délibératif de leur mandat. Cet article se contente de rappeler le nécessaire respect, non pas de la neutralité, mais de la laïcité. Or, si la loi de mise en œuvre de la laïcité du 9 décembre 1905 impose la neutralité à l'administration publique, à ses agents, ainsi qu'à celles et ceux qui exercent une mission de service public ou représentent directement l'administration, elle garantit au contraire la liberté de conscience et son expression sous les seules restrictions nécessaires à l'ordre public, à tous les autres, parmi lesquels figurent, bien entendu, les élus. Cette ordonnance du juge brouille donc la nécessaire distinction entre deux principes, d'une part la neutralité de l'institution et d'autre part la liberté des élus qui y délibèrent. Une mairie, en tant qu'institution publique, ne peut pas, par exemple, afficher sur sa façade un slogan partisan appelant à l'abrogation de la réforme des retraites. Mais les élus municipaux qui y siègent peuvent, en revanche, débattre librement d'une telle réforme, prendre position, voter des vœux ou exprimer leur désaccord en séance. La neutralité imposée à l'institution administrative ne vaut donc pas automatiquement pour les élus qui délibèrent en son sein. Ils sont en effet les représentants du peuple et non les agents de l'administration. Ils ont fait campagne en mettant en avant leurs convictions, voire leur appartenance philosophique ou religieuse. En démocratie, tout cela n'a rien d'anormal.
Oui, donc, quelle conclusion ?
Bon, alors, retirer les quelles sont donc les règles qui s'appliquent aux élus ?
Voilà.
Nicolas Cadenne poursuit son explication ainsi. Jamais la laïcité n'a supposé la neutralité des élus, sauf lorsqu'ils exercent une fonction administrative déterminée. Ainsi, lorsqu'un maire ou un adjoint célèbre un mariage, il agit en tant qu'officier d'état civil. Il est dès lors soumis au principe de neutralité. Il en va de même lorsqu'il agit en tant qu'officier de police judiciaire ou lorsqu'il représente officiellement l'administration communale lors d'une cérémonie religieuse. Ces règles avait d'ailleurs été rappelé en 2015 dans un avis adopté à l'unanimité par l'Observatoire de la laïcité, composé notamment de membres du Conseil d'État, du Conseil supérieur de la magistrature, de dirigeants des administrations centrales et de parlementaires de tous bords. Elles s'inscrivent en outre dans une jurisprudence constante. L'instruction contestable du bureau de l'Assemblée nationale dont s'est inspiré le Conseil municipal de Chalon-sur-Saône est certes applicable aux députés en séance, mais il ne saurait fonder un principe général s'imposant à tous les élus locaux. Une telle transposition remettrait gravement en effet en cause leur liberté fondamentale d'expression. Bien. Faut-il rappeler qu'encore aujourd'hui, des religieuses ou des moines sont conseillers municipaux dans diverses communes de France ? Faut-il rappeler que le maire de Dijon lui-même fut entre 1945 et 1968 un religieux, le chanoine Kir, et qu'il portait régulièrement la soutane en mairie comme à l'Assemblée nationale ? Faut-il rappeler que notre histoire parlementaire a compté plus de 400 ministres du culte parmi les députés sans que cela n'ait jamais été tenu pour incompatible avec notre régime de laïcité ? Alors comment, Nicolas, juge-t-il cette volonté de neutralité automatique des élus ? Il rappelle que le Conseil d'État avait jugé le 23 décembre 2010 que rien n'autorise l'exclusion des candidats aux élections municipales qui feraient état de leurs convictions religieuses en affichant un signe. La Cour de cassation a en outre jugé le 1er septembre 2010 qu'un maire privant de parole un conseiller municipal au motif qu'il porte un signe religieux commet une discrimination, dès lors que le port de ce signe n'est pas constitutif d'un trouble à l'ordre public. Nicolas Cadenne conclut qu'heureusement, une ordonnance du juge des référés ne crée pas du droit, a fortiori, lorsqu'elle s'écarte d'une jurisprudence constante, mais elle opère tout de même un pas. En souhaitant faire entrer l'élu local lorsqu'il siège en séance publique dans le champ de la neutralité de l'administration, elle surinterprète le principe républicain de la laïcité. Cette décision dit quelque chose de notre époque, termine-t-il dans son texte. Elle acte la propagation jusqu'au sein de la justice d'une conception déformée de la laïcité qui transforme une garantie de liberté en un instrument de restriction. Je vous remercie.
Voilà. Eh bien, merci Claudette. Et pour finir, je voudrais revenir sur le numéro de mars 2025 du magazine national de la libre pensée, La Raison. Son dossier, qui porte sur une libre penseuse féministe engagée, Madeleine Pelletier. Son analyse sociologique et politique, par exemple sur la famille, est tout à fait intéressante. Elle nous dit « La femme, même dans le mariage, est une prostituée. Voici le mal. C'est l'égalité politique et sociale qu'il faut conquérir. Lorsque la femme pourra gagner sa vie dans toutes les situations qu'occupent les hommes, un divorce ne sera plus une catastrophe. La femme ne perdra plus son rang en perdant son mari. » Il ne faut pas être par un homme, mais par soi-même. C'est une belle leçon. C'est une femme qui, d'ailleurs, fut anarchiste, socialiste, guédiste, hervéiste, communiste, puis revient vers l'anarchisme, en passant par le parti d'unité prolétarienne. Elle a été au cœur de débats féministes, donc, et aussi engagée politiquement. Médecin, elle n'a pas hésité à aider à l'avortement d'une jeune fille violée par son frère et sera pour cela condamnée à être internée en asile psychiatrique. Voilà. Merci donc à Claudette, Henri, Michel, Nima. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site de la Fédération des Bouches-du-Rhône de la Libre-Pensée, www.lp-13.org. Je rappelle nos rendez-vous. Donc, pour la flottille, 10h samedi à l'Estac, 14h au J4, et le banquet de la Libre-Pensée, 10h30, samedi aussi d'ailleurs, au centre d'animation des Carmes, de rue des Carmes à Marseille. Voilà. Merci encore à Radio Galère et à Daniel. Au revoir et au mois prochain, le mercredi 6 mai, de 13h30 à 14h30, comme habituellement.
Et comme on dit, je voudrais encore remercier Nima, bien entendu. Et comme on dit d'habitude, bon vent pour la flottille.